Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Romain Ozoui.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur RFI, c'est l'heure de votre débat et comme chaque vendredi, c'est la libre antenne. Vous vous exprimez sur le sujet d'actualité de votre choix, on attend vos appels au standard. 33 9 693 693 70, la page Facebook également, bien sûr, de l'émission. Je lirai certains de vos commentaires et pour commencer, eh bien ça y est, après plus de 2 ans de blocage en Belgique, la dépouille d'Étienne Tshisekedi est arrivée hier soir en RDC. C'était notre débat hier hein, dans Appel sur l'actualité. Vous continuez ce matin à réagir, car cette fois, le retour du chef historique de l'opposition est bel et bien une réalité. On a Dieudonné qui nous écrit sur WhatsApp, qui se trouve précisément au stade des martyrs de Kinshasa, où le recueillement populaire en hommage à Étienne Tshisekedi a débuté. Voilà ce qu'il nous écrit, Dieudonné. Le stade est envahi par de nombreux militants qui ont passé la nuit ici pour témoigner leur amour à celui qu'ils ont nommé Tachichi. Continuez à nous faire vivre un petit peu ce qui se passe au stade des martyrs, Dieudonné. Josué nous appelle de Kinshasa. Josué, bonjour.
Bonjour, Roman.
Alors vous, justement, est-ce que vous prévoyez aussi de vous rendre aujourd'hui au stade des martyrs pour rendre hommage à Étienne Tshisekedi?
Bon, peut-être après le boulot. Hein. Je suis encore au travail et là, peut-être après le boulot, je pourrais m'y rendre.
Donc en fin de journée, plutôt, éventuellement pour la veillée mortuaire qui est prévue ce soir?
En fin de journée, juste peut-être une heure ou deux, voir un peu comment ça se passe là-bas et puis rentrer à la maison parce que je ne sais pas trop si la sécurité est vraiment rassurée là-bas.
On attend effectivement énormément de monde au Stade des Martyrs aujourd'hui pour la première journée des commémorations officielles en hommage à Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que ça y est, voilà, après plus de 2 ans de blocage et plus de 2 ans après sa mort, le corps d'Étienne Tshisekedi est de retour sur sa terre natale?
Bah en fait, c'est un plaisir immense d'abord pour commencer parce qu'on a eu à attendre pendant plus de 2 ans et tout. Bon, on n'y croyait presque pas, mais voilà, nous y sommes. C'est une grande joie. Enfin, il sera enterré sur la terre de ses ancêtres. Donc, on célèbre cela.
Qu'est-ce que représente Étienne Tshisekedi pour vous?
En fait, Étienne Tshisekedi, c'est pour moi, personnellement, c'est l'icône de la démocratie congolaise. Donc, c'est le père de la démocratie congolaise. Il a mené un combat que nous saluons et je crois que toutes les générations s'en rappelleront toujours.
Oui, effectivement, il est l'artisan de la démocratie, de la transition démocratique, en tout cas, selon vous, en RDC. Il a supervisé, on le rappelle, l'accord politique, un accord de la Saint-Sylvestre, signé fin 2016, censé dénouer la crise politique consécutive à la fin du mandat de Joseph Kabila. Voilà pourquoi vous voulez lui rendre hommage aujourd'hui?
Effectivement, oui, parce que il a mené un combat que nous ne cesserons de saluer. C'est vrai que C'était un combat pacifique toutes ces années et tout. Et voilà, aujourd'hui, je crois qu'on peut enfin l'enterrer en paix. Donc, nous sommes fiers d'avoir quelqu'un qui a lutté pour un état de droit, pour l'avènement d'un état de droit. Donc, nous sommes en train d'y aller petit à petit.
L'enterrer en paix, mais qu'est-ce que vous pensez de la polémique sur le coût des obsèques d'Étienne Tshisekedi? On parle d'obsèques qui s'élèveraient entre 3 et 6 millions de dollars. Vous estimez que c'est une polémique vaine ou est-ce qu'elle est justifiée selon vous?
Moi, je pense que c'est une polémique vaine. Je crois que si l'argent est sorti pour une bonne cause et que les dépenses sont justifiées, moi, je pense que c'est une polémique vaine. En tout cas, ça ne tient pas debout, sérieusement.
Eh bien, merci beaucoup pour ce premier témoignage, Josué. On a à présent Papicho qui nous appelle de Liège, en Belgique. Papicho, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour, Max.
Alors c'est Romain ce matin dans Appel sur l'actualité. Papicho, vous avez un témoignage intéressant à nous livrer parce que vous avez rencontré à plusieurs reprises Étienne Tshisekedi.
Oui, je l'ai rencontré quand il était en convalescence à Bruxelles. Mmh. Et donc j'ai participé à plusieurs réunions qu'il a organisées. J'ai participé à la création du rassemblement. Et donc c'est quelqu'un que j'ai connu. Tshisekedi, c'est la citadelle même de l'opposition contre le régime dictatorial qui s'est succédé en RDC. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur, Il affrontait la peur droit dans les yeux. Il avait une vision pour ce pays et il était porteur d'un projet politique pour son peuple. Et Tshisekedi, c'était un homme qui avait un objectif, mais un objectif bien spécifique. Et donc voilà, Tshisekedi, c'est Étienne Tshisekedi, il est resté authentique durant toute sa vie. Et voilà.
Et vous pensez qu'il doit être élevé au rang de héros national? C'est ce que prévoient les commémorations, élevé au rang de héros national au même titre que l'ex-premier ministre du Congo indépendant en 1960, Patrice Emery Lumumba, ou Laurent Désiré Kabila, l'ex-président, alors qu'il n'a jamais été président, on le rappelle, hein, Étienne Tshisekedi. Vous en pensez quoi, vous?
À titre personnel, je pense que M. Tshisekedi, c'est un brillant héros. Mmh. Hein, mais tout dépend de la définition qu'on attribue à ces non-masculins héros. Mmh. Hein, Samson Bruno disait que hétéro, c'est lui qui accomplit avec détermination, compétence et dévouement, les tâches que son époque impose à tous. Et donc, de par cette définition, je crois que Tshisekedi, c'est un héros. Mais tout dépend de la manière dont l'on conçoit, dont l'on perçoit la définition de ce qualificatif héros.
Étienne Tshisekedi, donc héros national, à travers deux jours, hein, deux grandes journées de commémoration prévues aujourd'hui et demain en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Papicho, qui nous a appelé de Liège, et Josué de Kinshasa. Kinshasa, où il va y avoir foule effectivement cet après-midi, ce soir, au Stade des Martyrs, où sera exposée donc la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Il est 10h47 ici à Paris, un sujet à présent qui continue de vous faire beaucoup réagir, c'est en Guinée, et cela concerne la polygamie. Après l'adoption d'un nouveau code civil, dans ce code civil est inscrit que la monogamie constitue le régime général du mariage, mais que la polygamie reste possible à condition que la première épouse donne son accord lors de la célébration du mariage à la mairie. Mohamed, pour en parler, nous appelle de Conakry. Mohamed, soyez le bienvenu. Alors Mohamed, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je vous entends, bonjour.
Bonjour Mohamed, que pensez-vous de ce texte, de ce nouveau code civil en Guinée ? Jusque-là, la polygamie, on le rappelle, était la règle en Guinée.
Oui, bien sûr, je suis... Merci, bonjour à tout le monde. Je voudrais juste vous dire que nos députés ou nos dirigeants essayent de colmater les lois ou de prendre... Des lois européennes pour venir mettre dans un contexte africain. C'est vraiment pas la peine. Parce que une loi qui eux-mêmes ils savent pertinemment que ça va pas être appliqué, ça ne sert à rien de voter une loi. Parce que ça y va de la crédibilité du pays. On sait que la Guinée est un pays musulman, 90% à peu près. Et la polygamie, elle est vraiment de règle. Même depuis 78, la loi là existait, mais on sait pertinemment que ça ne s'applique pas nulle part. Eux-mêmes qui ont voté, il y a plusieurs qui ont plusieurs femmes parmi eux. Donc, je pense qu'en votant une loi, il faut penser au respect, à l'application de la loi.
Pour vous, elle ne s'appliquera pas, cette loi? Pourquoi? Parce qu'il est impossible qu'une femme s'oppose au choix de son mari, globalement, c'est ça, selon vous, en Guinée?
Non, c'est parce que en Guinée, c'est pas les femmes. En fait, jusque maintenant, on est en train de lutter pour que les femmes puissent avoir la voix au chapitre. Mais pour le moment, en Guinée, dans nos coutumes et dans les traditions guinéennes, c'est l'homme qui décide. Mmh. Quand l'homme veut épouser une deuxième femme, il informe sa femme. Il ne demande pas son autorisation. Et c'est ce que la loi dit. Et tout le monde sait que maintenant, ce qui va arriver, la conséquence, c'est que tu vas informer ta femme, elle va s'opposer, elle va porter plainte, et puis c'est divorce, c'est le divorce que tu vas demander. Voyez ce qu'il y a. La loi pose beaucoup plus de problèmes aux femmes que de les aider. Parce que le problème en Guinée, c'est vraiment un problème culturel et de coutume. Quand tu veux épouser une deuxième femme, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation de ta première femme. Surtout qu'on est à 70% de population rurale et les 30%, les 80%, parmi les 30%, là, 80% de ces 30% qui sont dans la zone urbaine ne sont pas allés à l'école.
Alors Mohamed, on va écouter un autre point de vue sur ce sujet qui peut être intéressant et qui n'est pas le même, je pense, que le vôtre. Raymond de Conakry. Raymond, soyez le bienvenu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la réaction? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette décision, de ce nouveau code civil en Guinée?
Bonjour, Rafi. Bon, en fait, je viens d'écouter tout à l'heure. Parce qu'on parle de polygamie. Moi, je parle des inconvénients de la polygamie. Parce que dans tout choix, en fait, il faut voir les inconvénients et les avantages. Ça fait combien d'années déjà il y a des familles polygames en Guinée. Mais quels sont les avantages? Moi, je trouve qu'il y a plus d'inconvénients dans la polygamie que la monogamie. En amont, je vois que les députés ont évité en amont des problèmes. Les problèmes de justice en Guinée, la majeure partie sont des problèmes de manière. Et ces problèmes de manière sont strictement liés aux enfants de
mon père. Raymond, je me permets de vous couper parce que la ligne est mauvaise, mais on a bien compris que vous souteniez cette nouvelle version du Code civil. On va essayer de revenir vers vous un peu plus tard pour écouter vos arguments. On revient à Mohamed. Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Raymond, Mohamed ?
Oui, j'ai compris, mais c'est qu'il y a un problème d'éducation civique au niveau de la population, et aussi il y a un problème de coutume et de culture, parce que en Guinée ici, quand il y a deux ou trois femmes, il y a des enfants, et généralement on applique pour l'héritage, on applique le principe décrit dans le Coran. Et le problème qui se pose, c'est que dans les familles, il y a toujours des personnes qui sont en train d'agir contre une femme ou en faveur d'une autre. C'est ce qui amène les problèmes à la justice. Mais heureusement, la justice essaye de les trancher, parce que la justice non seulement applique la loi par rapport à ça, mais il y a les prescriptions islamiques qui décrivent les bénéficiaires des héritages.
On a bien compris, d'ailleurs les leaders musulmans effectivement en Guinée ont exprimé leur opposition au nouveau texte, mais au standard, Raymond nous a dit qu'il était lui monogame et qu'il n'avait pas l'intention de prendre plusieurs épouses. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce type de situation? Comment vous réagissez?
Oui, ça dépend, hein, ça dépend, parce que ici en Guinée, par exemple, nous avons quatre régions naturelles. Les trois régions naturelles, la haute, la moyenne et la basse Guinée, ont presque les mêmes cultures par rapport au mariage. La Guinée forestière, où il y a beaucoup plus de chrétiens, même parmi eux, il y a presque les 50% sont polygames. Alors que, il y a plein de choses qu'on dit à l'église, il faut avoir une bonne, il y a tout ça. Mais ce qui reste clair, quand on doit voter une loi, parce que c'est une loi, c'est il faut penser à l'applicabilité de la loi, au respect de la loi. C'est que les gens votent les lois, il n'y a aucun principe de suivi d'application de ces lois-là. Parce que eux-mêmes, ils sont conscients que ce qu'ils votent là, ça ne sera jamais appliqué à 90%.
Merci Mohamed. Raymond, on a retrouvé Raymond. Raymond, vous pensez que cette loi ne sera jamais appliquée en Guinée? Vous êtes aussi critique que Mohamed?
Non, je suis pas. Bon, dans le cadre de l'application, je sais qu'en Afrique, c'est très difficile d'appliquer certaines lois. Mais moi, je parle sur des principes. C'est-à-dire les inconvénients de la polygamie. Tout de suite, il vient de dire que les enfants, l'éducation. Un papa qui a 25, 18 enfants à la moyenne. Vous voyez ce que ça fait, l'éducation de tous ces enfants. Et souvent, ce sont des problèmes-là qui nous ramènent à la justice. Moi, je suis un peu de ce côté. Parce que la polygamie, ça fait combien d'années? Qu'est-ce que ça nous donne? Ce n'est que des problèmes de justice. Et souvent, les papas meurent tôt. C'est vrai, il y a des familles qui arrivent à gérer ces problèmes avant la mort, ceux qui ont deux, même ceux qui ont deux ont tellement de problèmes. Et tous ces enfants, à la fin, c'est des problèmes, c'est des scènes spectaculaires qui se passent à Conakry ici. Ils savent très bien de quoi je parle. C'est bien, la polygamie, moi, je vois les députés, ils ont éviter des problèmes sociaux qui se passent souvent dans nos sociétés ici.
Eh bien, merci oui. Raymond. Merci Raymond, on a bien entendu votre témoignage. Merci également à Mohamed. Vous nous appeliez tous deux de Conakry. Très belle journée à vous dans la capitale guinéenne. 10h, bientôt 54 minutes, le temps passe vite. Ici à Paris, 33 9 693 693 70. C'est Amadou à présent qui nous appelle. Amadou, bonjour. Abdoulaye qui nous appelle de Dakar. Abdoulaye, bonjour.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu sur l'antenne de RFI dans Appel sur l'actualité. Abdoulaye, vous souhaitiez réagir à un autre sujet qui a fait beaucoup de bruit également cette semaine en Afrique. C'est le lancement d'un dialogue national au Sénégal.
Oui, en fait, moi je dirais pas un dialogue national, mais plutôt une farce nationale, une farce de Macky Sall, comme d'habitude. Macky Sall, il respecte pas ses engagements. Aucun de ses engagements n'a jamais respecté. Il a fait une soit disant qu'il a gagné avec 58% des élections. Il a besoin de dialogue pour faire quoi? Pour quoi faire? On l'a élu pour 5 ans. Il n'a qu'à respecter ses engagements vis-à-vis des peuples, vis-à-vis de ce qu'il doit faire par rapport à ses promesses.
Alors on va rappeler le contexte, Abdoulaye. On va rappeler le contexte. Hein, cette tradition instaurée depuis 2016 par le président sénégalais Macky Sall. Chaque année, la journée du 28 mai, donc c'était ce mardi, cette journée consacrée au dialogue national. Ça veut dire que tous les acteurs, et notamment ceux de la société civile, sont invités à la présidence. Donc vous ne croyez pas à cette initiative. Pourquoi ? C'est quoi ? C'est de la communication politique pour vous ?
Non, c'est de la comédie. Mmh. C'est tout. Parce que la dernière fois qu'ils ont fait ce dialogue national, ça a abouti à quoi ? Un prétexte pour libérer Karim Wade, l'exiler, non pas libérer, mais l'exiler du pays. Cette fois-ci, ce sera certainement pour sortir Khalifa Sall de prison. C'est tout. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas ce monsieur. Il dit des choses qu'il règne le lendemain, il dit une chose aujourd'hui, le lendemain il dit le contraire de ce qu'il a dit hier, et voilà, il appelle les gens au palais, raconte n'importe quoi, chacun vient raconter sa vie. À quoi ça nous concerne, nous, le peuple sénégalais?
Eh bien, merci à vous, Abdoulaye de Dakar. On vous a bien entendu sur ce sujet du lancement du dialogue national au Sénégal. Dialogue qui a été boudé, on le rappelle, par Abdoulaye Wade. Ça se passe donc au Sénégal. Très bonne journée à vous dans la capitale sénégalaise. Il est 10h56 ici à Paris. La libre antenne, comme chaque vendredi dans Appel sur l'actualité. On va à présent écouter vos réactions concernant la situation au Soudan. C'est Benjamin qui nous appelle de Bangui, la capitale centrale africaine. Benjamin, bonjour.
Bonjour, monsieur Omar Ouzi.
Eh bien, Benjamin, soyez le bienvenu. On va rappeler l'actualité au Soudan. Cette semaine a été marquée par 2 jours de grève générale à l'appel d'un vaste mouvement civil. Objectif, faire pression sur les généraux qui ont pris le pouvoir au Soudan après avoir écarté Omar el-Béchir le mois dernier. Benjamin, vous avez pensé quoi de ce mouvement-là de grève générale mardi et mercredi au Soudan? C'était un mouvement inédit dans le pays.
Oh oui, monsieur, mais moi je pense que cette pression doit s'intensifier pour contraindre les militaires à rendre le pouvoir aux civils. Vous savez qu'il est de notoriété publique en Afrique, généralement, quand les militaires arrivent aux affaires, ils disent qu'ils vont juste balayer la maison pour leur rendre la paix aux civils, mais généralement, ils ne tiennent pas leurs promesses. Donc je pense que le mouvement des civils au Soudan doit être même appuyé par la communauté internationale qui doit mettre la pression au maximum sur les militaires pour qu'ils puissent céder aux revendications de la mise en place d'un gouvernement. Je peux dire, comme ils ont déjà décidé de mettre un gouvernement à moitié civil et moitié militaire, mais que la présidence du Conseil souverain soit tenue par un civil. Parce que les militaires, il ne faut pas leur faire confiance au-delà de ce qu'ils disent généralement.
Alors la communauté internationale a multiplié les appels dans ce sens hein, auquel vous faites référence, Benjamin. On va refaire un point rapide sur le contexte au Soudan, hein, le départ d'Omar el-Béchir. Donc ensuite a été décidé de mettre en place pour une période de transition de 3 ans un conseil souverain. Et donc effectivement, et vous le soulignez ce matin, les négociations bloquent. Elles bloquent sur la répartition des sièges entre militaires et civils au sein de ce conseil, d'où ces discussions qui sont au point mort. Est-ce que vous pensez que le mouvement de mardi et mercredi soit d'augure à faire lâcher du lest du côté des généraux?
Oui, ben vous voyez, après ce mouvement, vous avez vu qu'après le mouvement, deux jours de grève, l'autre, là, les militaires étaient obligés de concéder de lâcher du lest. Donc si ce mouvement s'intensifie avec la pression de la communauté internationale...
Vous trouvez que la communauté internationale n'en fait pas assez? La communauté internationale n'en fait pas assez, selon vous?
Non, la communauté internationale n'en fait pas assez. Et vous voyez, même avec l'ingérence des pays voisins comme l'Arabie Saoudite et l'Égypte, c'est une ingérence très dangereuse, même pour l'avenir, je peux dire, sur le plan religieux du Soudan. Vous savez, vous êtes sans ignorer que l'Arabie Saoudite prône un islam très rigoriste. Et si c'est l'Arabie Saoudite qui a pu les militaires arrêter au pouvoir, je pense qu'il y a un agenda caché derrière. Et même l'Égypte, avec le gouvernement Al-Sisi, vous voyez comment est-ce qu'il tient son pays d'une main de fer. Donc quand c'est lui qui appuie aussi les militaires, c'est dangereux. Donc moi je pense que la communauté internationale doit se mobiliser pour ne pas toujours venir après, l'autre là, le pompier après l'incendie. Donc le moment est là pour que la communauté mette la pression au maximum sur les